VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahman Dia avec vous depuis Washington pour cette édition de 19h30 en universel. Nous sommes vendredi 2 mars 2018 au sommaire. 8 assaillants et 7 militaires tués à Ouagadougou après des attaques visant l'état-major de l'armée et l'ambassade de France.
J'étais en ville et j'ai entendu l'explosion. Donc nous nous sommes mis à l'abri. On a eu vraiment peur. La circulation était vraiment dense. Tout le monde était bouleversé. La pagaille totale, c'était vraiment de la débandade.
Dossier complet dès le début du journal. Au moins 49 personnes ont été tuées dans des nouvelles violences communautaires en Ituri, dans l'est de la RDC. Les propos du président Donald Trump d'imposer une hausse des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium suscitent de vives réactions à travers le monde. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. La capitale burkinabé, Ouagadougou, a une nouvelle fois été la cible d'une attaque terroriste ce vendredi. 8 assaillants et 7 soldats ont été tués. L'attaque visait l'état-major général des armées et l'ambassade de France. Zoumana Wonogo, depuis Ouagadougou, nous fait le point.
Une fois de plus, la capitale burkinabé Ouagadougou a été victime d'une attaque terroriste. Tout a commencé aux environs de 10h30 temps universel par une explosion assourdissante suivie de tirs nourris d'armes de guerre à l'état-major général des armées situé en plein centre-ville. Puis les assaillants se sont déportés vers l'ambassade de France jouxtant le premier ministère. Des informations que nous avons pu glaner ça et là, il ressort que l'astuce utilisée par les assaillants pour pénétrer à l'état-major général des armées a été de se vêtir en tenue militaire burkinabé, ce qui a permis de tromper la vigilance des sentinelles. Et pour l'attaque de l'ambassade de France, les assaillants sont venus à bord d'un véhicule bourré d'explosifs. Mais la riposte des gardes burkinabés et de la force spéciale de l'armée française a permis de les neutraliser. L'épicentre de l'attaque étant l'état-major général des armées, qui n'est pas loin du grand marché de Ouagadougou, a créé la panique générale. Les commerçants ont vite fait de vider les lieux. À la question « Qui sont les assaillants ?», le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Rémi Dandjinou, a affirmé que ce sont des terroristes. Il reste à savoir de quel groupe ils proviennent.
Et cette nouvelle attaque ciblant Ouagadougou a choqué les habitants. Zoumana Wonogo a recueilli les propos de quelques personnes non loin des lieux de l'attaque.
Je suis Madame Sano, Safiato. J'étais en ville et j'ai entendu l'explosion. Donc nous nous sommes mis à l'abri. On a eu vraiment peur. La circulation était vraiment dense. Tout le monde était bouleversé. La pagaille totale, c'est vraiment de la débandade. Tout le monde se cherche. Nous souhaitons vraiment un changement. Il faut qu'on redouble encore plus d'efforts de sécurité dans notre pays. Mais nous ne savons pas si cette attaque concerne vraiment le jugement qui a eu lieu la fois dernière ou bien si ce sont des djihadistes. Nous ne savons rien pour l'instant. Mais nous voulons la paix dans notre pays.
Aristide Zundi, je suis livreur de l'air. J'étais dans l'alentour de l'état-major. J'ai entendu un bruit sourd qui surgissait vers là-bas et d'un coup je voyais la fumée noire. Quand j'ai entendu le bruit de l'explosion, mes oreilles bourdonnaient, j'ai eu peur. En tout cas, je me suis cherché. Où je voyais les gens qui fuyaient partout, qui se cherchaient, voilà. Et en tout cas, ça a paniqué la ville.
Quelques habitants de Ouagadougou. Puis le parquet du tribunal de grande instance de Ouagadougou a lancé un appel à témoins pour aider dans la recherche et l'identification des complices, des hôtes et tous les autres facilitateurs éventuels, selon un communiqué publié ce soir. Et un peu plus tôt, je me suis entretenu également avec Bagassi Koura, le rédacteur en chef du service Bambara de VOA Afrique sur cette attaque.
Ce qu'il faut dire jusque-là, l'attaque n'a pas été revendiquée. Il s'agit de jeunes, 8 au total, c'est en tout cas ce qu'on a appris, qui étaient habillés pour certains en tenue militaire, ce qui aurait permis, comme Zoumana le disait, de tromper la vigilance au niveau de l'état-major. Vous savez, le Burkina a connu un certain nombre de coups d'État dans son histoire et très tôt le matin, dès qu'on a appris que l'État-major était attaqué, beaucoup ont pensé à un coup d'État, mais rapidement, les gens ont compris qu'il ne s'agissait pas d'un coup d'État parce que ceux qui font le coup d'État ne s'en prennent pas à l'ambassade de France.
Et le bilan, en fait, certains évoquent un bilan beaucoup plus lourd. Nous, on s'en tient au bilan officiel pour l'instant.
Oui, certaines sources parlent de 28 morts, uniquement à la base militaires à l'état-major de l'armée, mais le gouvernement s'en tient donc à ce chiffre de 8 assaillants tués et 7 militaires qui ont été tués. Il y a aussi près de 70 blessés, dont notamment 3 grièvement.
D'accord. Et rapidement, pourquoi les forces burkinabées semblent surprises cette fois-ci encore?
Oui, parce que vous savez, après plusieurs mois de sécurité renforcée, de vigilance, à un moment donné, peut-être qu'il y a une sorte de fatigue où les gens se font prendre là, au moindre détail près, et c'est peut-être ce qui est arrivé là.
Bagassi Koura de VOA Afrique. Une autre réaction, celle de Idi Ango Oumar, ancien ministre de l'Intérieur du Niger, un autre pays ciblé par les mouvements djihadistes. On l'écoute.
Et je pense que cette nouvelle attaque de Ouaga, malheureusement, nous prouve une fois de plus que nous avons une constitution, un maillon faible, et que les attaques sont assez faciles et meurtrières, comme on le constate. Ce qui est surprenant, c'est l'attaque en plein jour, à 10 heures, à une heure inhabituelle, ce qui veut dire également que cette attaque, avec ce qui en est suivi, c'est qu'il y a eu forcément une reconnaissance des dieux et qu'ils ont voulu faire un coup d'éclat. Ce qu'il faut surtout, se dire comme première réaction.
C'était Idi Ango Oumar, ancien ministre de l'Intérieur du Niger.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Attaque aussi au Nigeria. 3 travailleurs humanitaires ont été tués dans la ville de Rande, dans le nord-est du pays. Cette attaque est attribuée au groupe Boko Haram. Les détails avec Raissa Gironda.
L'ONU confirme qu'au moins 3 humanitaires nigériens ont été tués et 3 autres blessés dans une nouvelle attaque de Boko Haram dans le nord-est du pays. Parmi les victimes figurent 2 employés de l'Organisation internationale pour les migrations et un médecin consultant pour l'UNICEF. Plusieurs soldats auraient été tués dans l'attaque, mais aucune confirmation officielle. Une infirmière est portée disparue, faisant craindre un enlèvement, a précisé le communiqué d'OCHA. Les travailleurs humanitaires mettent leur vie en danger chaque jour pour fournir une aide aux femmes, aux enfants et aux hommes vulnérables, a déclaré le coordinateur d'OCHA au Nigeria, Edouard Kallon. L'UNICEF condamne fermement cette attaque et rappelle que le nombre d'attaques sur des humanitaires augmente dans le monde entier de façon alarmante. Nous devons réaffirmer notre engagement pour les protéger, a déclaré Marie-Pierre Poirier, directrice régionale de l'UNICEF.
49 personnes ont été tuées dans de nouvelles violences communautaires survenues la nuit dernière en Ituri, dans le nord-est de la RDC. Selon l'association Caritas, les assaillants présentés comme appartenant à la communauté lindou se sont attaqués au Emma. Le différend pour les terres entre éleveurs Emma et agriculteurs lindou en Ituri est une des nombreuses sources de violences dans l'est de la RDC. Le bilan risque d'être plus lourd selon la société civile locale et nous y reviendrons dans la partie magazine. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson est attendu en Afrique la semaine prochaine pour une visite dans 5 pays. Ce sera la première visite officielle du chef de la diplomatie américaine sur le continent depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. John Lindon.
Pour sa première visite officielle en Afrique, le chef de la diplomatie américaine se rendra au Tchad, en Éthiopie, au Kenya, au Nigeria et à Djibouti. Selon la porte-parole du département d'État Heather Nauert, cette visite s'étalera du 6 au 13 mars. Selon elle, M. Tillerson entend discuter des moyens pour les États-Unis de travailler avec les partenaires africains pour lutter contre le terrorisme, favoriser la paix et la sécurité, promouvoir la bonne gouvernance et encourager un commerce et des investissements mutuellement avantageux. À Addis Abeba, Rex Tillerson aura une rencontre avec les responsables de la Commission de l'Union africaine. Lors d'une rencontre en novembre dernier à Washington avec des responsables de l'Union africaine, Rex Tillerson n'avait défini que des objectifs très généraux de sa politique africaine.
Le président américain Donald Trump a de nouveau menacé ce vendredi d'imposer des taxes réciproques sur les importations de certains produits aux États-Unis, faisant monter d'un cran les menaces de guerre commerciale. Ces nouvelles déclarations surviennent au lendemain de son annonce de l'imposition prochaine de taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium aux États-Unis, ce qui a déclenché des menaces de riposte commerciale de la part de principaux partenaires des États-Unis. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Et puis l'OTAN a jugé ce vendredi inacceptable et contre-productive les déclarations du président russe Vladimir Poutine qui vantait hier les nouvelles armes invincibles des forces russes. Les déclarations russes menaçant de cibler les alliés sont inacceptables et contre-productives, a affirmé la porte-parole de l'OTAN. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Dili Diko qui nous présente la Minute Éco.
La Côte d'Ivoire souhaite mobiliser 600 milliards de francs CFA sur le marché international de la dette. L'opération va servir à financer son budget, estimé à 6 756 milliards de francs CFA. La moitié de cette somme devrait être obtenue grâce aux recettes fiscales et près de 1 300 milliards de francs CFA seront mobilisés auprès des partenaires au développement. Le Kenya va bénéficier de 217 millions de dollars pour la mise en place de projets d'approvisionnement et d'assainissement de l'eau. Ces nouveaux financements arrivent dans un contexte de forte pénurie d'eau à Nairobi, Mombasa et Kisumu. Ils serviront à construire un nouveau barrage à Mombasa, à rechercher de nouvelles sources d'approvisionnement et à moderniser les réseaux existants à Kisumu et dans d'autres villes de l'ouest du Kenya. Sur le marché des matières premières agricoles, le cacao a grimpé alors que la récolte s'annonce moins élevée que prévu. Le cours du cacao a atteint vendredi son plus haut niveau depuis 14 mois à New York, à 2280 dollars la tonne. Les analystes de Capital Economics soulignent que les conditions météorologiques trop sèches pourraient impacter la récolte en Afrique de l'Ouest. Quant au cours du sucre et du café, ils ont été hésitants cette semaine en raison d'une surabondance de l'offre.
Et on retrouve Raïssa Girondin pour cette dernière page des sports pour ce soir. Raïssa, rebonsoir.
Bonsoir, Abdourahman.
La Ligue des Champions, Zidane se méfie de Paris Saint-Germain, même si c'est sans Neymar.
Oui, Abdourahman, en dépit du forfait de Neymar, le Real Madrid aborde toujours avec méfiance son huitième de finale retour de la Ligue des Champions mardi face au Paris Saint-Germain. Écoutons les déclarations de ce vendredi de l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane qui refuse de croire que ce duel sera facile.
Moi, ce que je sais, c'est que de toute façon, c'est jamais gagné. Rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais gagné. Il faut juste toujours se dire que les matchs, en fait, ils sont là pour justement montrer qu'on est bien, qu'on est présent, qu'on est là. Et bon, il y a eu 5 matchs avec celui de Paris, 4 en championnat. Il y a eu celui de mardi où ça a été moins bien dans la deuxième mi-temps. Et ça prouve justement que c'est jamais acquis.
Voilà, c'est les propos de Zinedine Zidane recueillis en conférence de presse.
Et puis donc, coach à un autre, la Guinée a un nouvel entraîneur.
Oui, c'est Paul Put qui a été désigné sélectionneur de l'équipe de Guinée à Conakry, vice-champion d'Afrique 2013 avec le Burkina Faso, récemment démissionnaire au Kenya. Il succède au Guinéen Kanfori Lapé Bangoura. Il devra notamment qualifier le Sili national pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le Belge doit encore signer un contrat dont la durée n'a pas été encore prévue.
Direction à présent Birmingham avec la deuxième journée des championnats du monde d'athlétisme en salle.
Oui, l'Éthiopienne Ganzebe Dibaba a été sacrée pour la troisième fois d'affilée championne du monde du 3000 mètres en salle à Birmingham lors des mondiaux indoor. Elle s'est adjugée la victoire en devançant 8 minutes 45 secondes et 5 centièmes la néerlandaise Sifan Hassan et la britannique Laura Moore. Aussi, pour le sprint féminin ivoirien, il est en grande forme. Muriel Aou et Marie-Josée Talou vise une médaille sur 60 mètres. Elles se sont qualifiées très facilement en 7-0-1-7-0-8 en finale qui aura lieu dans quelques instants. Une finale où les Ivoiriennes affronteront la Jamaïcaine Thompson et la Néerlandaise Shippers.
Et pour terminer, la NBA, Philadelphie qui malmène Cleveland.
Oui, les 30 points, 9 rebonds et 8 passes décisives de la superstar de Cleveland, LeBron James, n'ont pas suffi. En l'absence de Kevin Love, convalescent, et de J.R. Smith, suspendu, Cleveland s'incline à domicile face à Philadelphie, 108 à 97. Philadelphie est 6e de la conférence Est et se rapproche de Cleveland, toujours 3e, avec 36 victoires et 25 défaites.
Merci Raisa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. Violence intercommunautaire dans le nord-est de la RDC. De nouveaux affrontements entre Emma et Lendu dans la province de l'Ituri. Un dernier bilan fait état de 49 morts. L'ONU se dit préoccupée, craignant des recrutements d'enfants pour servir comme soldats dans les milices ou comme esclaves sexuels. Eddie Isango a interviewé le porte-parole de l'UNICEF, Yves Wilmo.
Nous estimons qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 000 personnes qui sont déplacées suite au conflit interethnique, qui sont déplacées à l'intérieur même de la province de l'Ituri, et qu'il y a plus de 30 000 personnes qui ont fui la province de l'Ituri et qui, en tant que réfugiés, se sont installées dans le pays voisin qui est l'Ouganda. Parmi ces personnes qui ont fui la violence, il y a un nombre important d'enfants. Nous estimons qu'aujourd'hui, plus de 80 000 enfants sont en déplacement, ont quitté leur village d'origine, leur communauté d'origine, suite à la violence interethnique qui sévit dans leur communauté.
Cette région a connu une des plus graves crises dans les années 99 et 2000. Mais qu'est-ce qui explique aujourd'hui cette résurgence de ces affrontements interethniques?
Je n'ai pas, en ce qui me concerne, une information et une compréhension très précise. Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que la tension interethnique n'a jamais véritablement disparu et que de temps en temps, il y a eu des affrontements entre les différentes ethnies et qu'apparemment, récemment, c'est une confrontation entre des jeunes des deux ethnies qui a dégénéré dans une explosion de violence que nous vivons aujourd'hui et dont nous vivons les conséquences, et plus particulièrement les enfants de l'Ituri vivent les conséquences.
C'est dans cette partie de la RDC où on a connu un grand recrutement d'enfants comme enfants soldats ou encore servant comme esclaves sexuels. Est-ce que la situation est revenue à ce point-là?
Je n'ai pas d'indication aujourd'hui me permettant de le dire. Par contre, nous estimons pour la province du Tanganyika à l'est du pays, le sud-est du pays, et la province du Sud-Kivu qui se trouve au nord de la province du Tanganyika, nous estimons qu'il y a sans doute 3000 enfants qui sont aujourd'hui utilisés dans le conflit et qui sont donc à catégoriser comme des enfants soldats.
Qu'est-ce qui est fait pour essayer d'arrêter cette situation en Ituri?
Nous menons en tant qu'UNICEF des activités de sensibilisation auprès des groupes armés et auprès des milices pour les convaincre de ne pas utiliser des enfants. Nous menons également des activités de sensibilisation au sein des communautés pour les informer du risque de voir leurs enfants être enrôlés et être utilisés au niveau des groupes armés et des milices. Mais au-delà de cela, ce que nous faisons surtout, c'est de nous assurer que des enfants qui sont sortis des groupes armés, qui sont sortis des milices, soient pris en charge.
C'était Yves Wilmont de l'UNICEF.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Au Congo-Brazzaville, les États-Unis ont remis 30 millions de dollars au Programme alimentaire mondial pour faire fonctionner les cantines scolaires du pays. Suite au repas servi à l'école, plusieurs enfants ont vu leurs résultats s'améliorer, nous dit notre correspondant à Brazzaville, Ngwel Angoussou, qui s'est rendu dans une de ces cantines.
À l'école du Ripon, à une trentaine de kilomètres au nord de Brazzaville, le repas est servi tous les midis à 838 élèves. Grâce au Programme alimentaire mondial, la PAM, et d'autres partenaires comme le Japon et les États-Unis, la cantine scolaire de l'école fonctionne normalement à la grande satisfaction des élèves.
Le riz avec les haricots, les sardines, les haricots, le riz, c'est tout.
D'autres élèves reconnaissent que les repas servis à l'école incitent plusieurs enfants à participer aux cours.
Mais parce qu'il y a les les autres élèves qui ne aiment pas venir à l'école parce qu'on mange le riz ici. Il y a les autres qui viennent pour étudier. Il y a les autres qui viennent seulement pour manger. S'il n'y a pas la nourriture, il y a les autres qui fuient.
Le PAM a ciblé 54 000 élèves qui bénéficieront de repas en cette année scolaire. Il s'agit en tout de 470 écoles reparties dans les départements des Plateaux, de la Cuvette, de la Bouenza, de la Lekoumou et du Poula. Jeudi, le gouvernement américain a offert 30 millions de dollars pour permettre au PAM de pérenniser ses cantines scolaires. La directrice de l'école Djiripan, Firmine Samba Nzomba, affirme que la qualité de la nourriture servie dans ces écoles est bonne, appelant ainsi les parents à contribuer au bon fonctionnement des cantines scolaires.
Depuis octobre jusqu'à aujourd'hui, on a reçu vraiment de bonnes qualités, que ce soit des petits pois, les enfants vraiment adorent ça. Et la qualité du riz, c'était bon. Jusqu'en fin d'année, les enfants vont très bien manger. Nous avons une situation du bois, c'est les parents qui devraient fournir du bois de chauffe pour préparer les vivres. Mais souvent, quand on fait passer le message, bon, ils ne réagissent pas vraiment en totalité.
Malgré la crise financière et le manque de vivres, le gouvernement s'emploie à faire exister ce programme. Il compte sur l'apport des partenaires internationaux, tels que l'admet ici Pierre Ngwala, directeur général de l'enseignement de base.
C'est un appui de plus attendu, c'est pourquoi vous me voyez me déplacer personnellement pour accompagner l'équipe du PAM. Autant nous avons manifesté notre joie de savoir que les États-Unis nous ont aidés, autant également nous manifestons notre joie pour d'autres partenaires qui nous ont donné, notamment le Japon, le Brésil, qui nous viennent en aide, jusqu'au moment où il y a quelques embellis du point de vue de l'économie congolaise. Aujourd'hui, on a amélioré les choses et parti de 60 à 70% de réussite. Pour nous donc, c'est quelque chose de sérieux, politiquement parlant, mais aussi pédagogiquement parlant.
Plusieurs autres cantines scolaires sont développées pour les enfants autochtones dans le nord du pays. Ngoïla Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le président américain Donald Trump va annoncer la semaine prochaine qu'il va taxer l'acier importé à hauteur de 25% et l'aluminium à hauteur de 10%. La mesure va viser en particulier le Canada, le Brésil, la Corée du Sud, le Mexique, l'Allemagne, la Russie et la Chine. Quelles seraient les conséquences potentielles d'une guerre commerciale déclenchée par cette décision de Donald Trump? Jacques Aristide a posé la question à Jean-François Seznec, spécialiste dans les affaires et la finance à l'Université Georgetown, ici même à Washington.
Ça va avoir des répercussions très graves parce que c'est vraiment un changement radical de la façon dont l'économie américaine est dirigée. Les partenaires des États-Unis, les partenaires commerciaux, vont bien sûr souffrir de ça. Bien sûr, les partenaires commerciaux ont quand même eu beaucoup d'avantages à travailler avec les États-Unis et ont des avantages pour eux et un déficit de la balance américaine qui est énorme, donc ça faudrait que ça change, mais effectivement, ça va changer la façon dont les affaires sont faites entre les partenaires. Les partenaires vont peut-être prendre des mesures à l'encontre des États-Unis et ça pourrait effectivement démarrer des crises économiques importantes un peu partout.
Faut-il donc commencer à prendre au sérieux le risque de guerre commerciale généralisée ?
Peut-être, c'est peut-être un peu trop tôt, mais si ce genre de choses continuait, effectivement, ça devient très difficile à contrôler parce que le public dans chacun des pays va demander des réactions contre les États-Unis et ces réactions vont provoquer d'autres réactions aux États-Unis. Donc effectivement, ça pourrait dégénérer, si vous voulez, dans une trade war, dans une guerre du commerce, ce qui serait très très grave. Bien sûr, il faut espérer que les esprits un peu plus calmes voient un peu les problèmes et les risques que ça pose à l'économie mondiale, hein. mais ce genre de choses peuvent dégénérer.
Mais pour justifier sa décision, Donald Trump dénonce les déficits commerciaux généralisés qu'enregistre son pays. Et d'ailleurs, les patrons américains se disent victimes de règles commerciales inéquitables. N'est-ce pas le devoir du président américain de défendre les intérêts de son pays avant tout?
Oui, effectivement, il n'a pas entièrement tort, hein, à mon avis. Le fait que les déficits commerciaux sont énormes et que des pays comme la Chine refusent vraiment d'ouvrir leurs barrières commerciales aux investissements dans d'autres industries américaines, donc ça crée des problèmes. Ils essayent d'avoir tous les avantages et aucun des inconvénients dans les pays comme la Chine en particulier. Donc là, si vous voulez, le président peut-être est en train de bluffer, si vous voulez, en train de prendre des mesures qui ne sont pas si difficile que ça, mais très bien reçu par les votants, les gens qui votent pour le président aux États-Unis, mais qui va effectivement faire du mal à la Chine en essayant de les forcer à ouvrir d'autres avenues de commerce. Mais c'est très risqué parce que la Chine en particulier, mais les autres partenaires comme l'Allemagne ne sont pas vraiment des gens faciles. Ils sont très forts, ils ont une très très bonne connaissance du marché, ils ont une très bonne connaissance des négociations, donc ils vont se battre, c'est sûr.
C'était Jean-François Seznec, spécialisé dans les affaires et la finance à Georgetown University à Washington. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était Sims Lumami à la mise en onde, à la console Sidrak Franklin, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellent week-end à tous.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le département américain de la justice a annoncé le 16 février 2018 qu'un grand jury siégeant à Washington a procédé à des inculpations sur la base d'un dossier fourni par le procureur spécial Robert Mueller. Des chefs d'accusation ont été retenus contre 13 ressortissants et 3 compagnies russes pour crimes fédéraux commis dans une tentative d'ingérence dans le système politique américain, y compris l'élection présidentielle de 2016. Selon le dossier d'inculpation, 12 des individus ont travaillé à différents moments pour Internet Research Agency, LLC, compagnie russe basée à Saint-Pétersbourg et engagée dans des opérations d'interférence avec les processus électoraux et politiques. Cette organisation aurait conduit ce que le dossier d'inculpation présente comme étant une guerre de l'information contre les États-Unis avec l'objectif de propager la méfiance à l'égard des candidats et du système politique en général. L'un des prévenus, Yevgeny Viktorovich Prigojin, aurait financé la compagnie Internet Research Agency, LLC, à travers des compagnies qu'il contrôlait, à savoir Concord Management and Consulting, LLC, et Concord Catering, déboursant souvent les fonds par les biais des filiales. Et cette opération d'influence serait partie d'une plus grande opération baptisée Projet LACTA. Le projet LACTA comprend de nombreuses composantes, certaines orientées vers les audiences domestiques au sein de la Fédération russe et d'autres visant des audiences étrangères dans des multiples pays. Les prévenus auraient également recruté et payé des Américains pour s'engager dans des activités politiques, promouvoir des campagnes politiques et organiser des réunions politiques. Le dossier d'accusation stipule que les prévenus et leurs complices se sont fait passer pour des activistes américains, ne s'identifiant jamais comme russes dans leur communauté avec les Américains. Le dossier inclut 8 chefs d'accusation criminelle. Il n'y a aucune indication que des Américains ont pris part à cette activité criminelle en connaissance de cause. Il n'y a aucune allégation non plus que les faits incriminés ont affecté l'issue de l'élection présidentielle américaine de 2016. L'acte d'accusation sert de rappel que les gens ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être sur Internet, a déclaré le ministre adjoint américain de la Justice, Rod Rosenstein. L'acte d'accusation affirme que les conspirateurs russes veulent promouvoir la discorde aux États-Unis et saper la confiance publique en la démocratie. Nous ne devons pas leur permettre d'y parvenir. Le département de la justice continuera d'œuvrer avec les agences de maintien de l'ordre et de renseignement, ainsi que le Congrès pour défendre notre pays contre des projets similaires.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.